Extrait numéro 6, chapitre 11, Pierre Ier et Charles XII. Au moment où on croit Pierre Ier enchaîné à Moscou par son amour ou par ses travaux, au moment où tout le monde suit du regard le législateur dictant ses lois, le réformateur changeant le culte, le fondateur de maisons de travail, de maisons de mendicité, de maisons d'instruction, de collèges, d'académies, d'écoles, de manufactures de toute espèce, depuis l'épingle jusqu'au canon, il apparaît tout à coup, au moment où l'on s'y attend le moins, à 180 lieues de Moscou, sur une petite île de la Neva, basse, marécageuse, malsaine, déserte, et il dit en frappant du pied cette boue, « Là sera Saint-Pétersbourg ». Là, pourquoi là ? Quelle est cette préférence pour un sol ingrat et pourri, pour ce climat sauvage où l'hiver règne 8 mois par an, pour ce fleuve tout de glace inégal, ensablé par lequel les vaisseaux de guerre lancés à Saint-Pétersbourg ne peuvent atteindre la mer s'ils ne sont soulevés par des machines ou des animaux ? Ne sait-il pas que ces eaux douces vont corrompre promptement le bois de ces vaisseaux ? N'a-t-il pas vu cet arbre solitaire où sont marquées les hauteurs des différentes inondations du fleuve? C'est un caprice d'autocrate, c'est une fantaisie du vainqueur. Non, ce n'est point un caprice. Non, ce n'est point une fantaisie. Un homme comme Pierre n'a de fantaisie et de caprice que pour les frivolités, jamais pour les choses graves. Non. Son choix, au contraire, est le résultat du calcul le plus logique, de la combinaison la plus profonde. Ces obstacles que lui oppose la nature et que lui font remarquer les hommes ne sont que des difficultés de détail. Ne sait-on pas que les trois plus importantes parties du globe, l'Asie, l'Europe et l'Amérique, convergent au pôle Nord ? La Russie, placée au point de réunion de leurs méridiens, est à la fois américaine, européenne et asiatique. L'Empire russe, jusque-là relégué à l'extrémité du globe, presque inconnu de l'Europe, va se mettre par le détroit de Bering en contact avec l'Amérique, par la mer Caspienne avec l'Asie, et par le pont Euxin et la Baltique avec l'Europe. Ainsi, par ses conquêtes sur la terre et sur les flots, il va donner à son empire la jouissance des trois mondes. Ainsi, le regard d'aigle du fondateur a vu dans les marais de la Neva, au fond du golfe de Finlande, le point de réunion de ce grand ensemble. Saint-Pétersbourg est le port le plus rapproché du Volga, cette grande artère, cette porte de la Russie. À Saint-Pétersbourg se réuniront non seulement le commerce, mais encore les eaux de l'Europe et de l'Asie, et qui sait peut-être celle de la mer Blanche, de la mer glaciale et de l'Amérique. Aussi rapportera-t-il tout à Saint-Pétersbourg, trésor, commerce, pays, noblesse, gouvernement. Il y fixera les sénateurs pour y avoir des marchands. Il y bâtira des palais pour qu'on y bâtisse des maisons. Il y construira des navires pour y amener des matelots. Ce sera d'abord, il le sait bien, un combat long et meurtrier contre les éléments. Il y perdra 100 000 hommes. Mais qu'importe, n'en a-t-il pas 18 000 000 à l'heure qu'il est? N'en laissera-t-il pas 30 000 000 en mourant? Et 100 ans après sa mort, ses successeurs ne régneront-ils pas sur 60 000 000 de sujets? Quant à cet arbre de mauvais augure qui prophétise l'avenir par le passé, quant à cet importun témoin qui dit à qui veut l'entendre qu'un vent de l'ouest refoulant les eaux de la Neva peut noyer Saint-Pétersbourg en 24 heures, quant à cet arbre funeste, on l'abattra. L'arbre abattu, on oubliera un danger que rien ne rappellera plus. Un danger oublié n'existe pas. En conséquence, le 16 mai 1705, le tsar posa la première pierre de la forteresse autour de laquelle s'éleva depuis Saint-Pétersbourg. La terre était sans forme et vide, et les ténèbres couvraient la face de l'abîme. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. laissons Saint-Pétersbourg grandir à l'ordre de son fondateur, il est temps qu'il redevienne général. Derfte et Narva l'attendent. On assiège Narva. Trois bastions brisent tous les efforts des Russes. On les appelle la victoire, l'honneur et la gloire. Pierre les emporte successivement, l'épée à la main. Narva est prise. Mais au milieu du carnage, du pillage et du viol, Pierre s'élance comme l'ange exterminateur. Ce n'est plus sur l'ennemi qu'il frappe, c'est sur ses propres soldats. « Vous êtes des pillards et des assassins !» leur crie-t-il. Et trois fois son épée frappe et tue ceux qui refusent de lui obéir. Enfin, le calme se rétablit. En ce moment, on lui amène le comte de Horn prisonnier. C'est le commandant de la ville qui l'a défendu jusqu'à la dernière extrémité. Pierre, en le voyant, se laisse reprendre à toute sa colère. Il s'élance au-devant de lui, le frappe au visage de la poignée de son épée. « C'est toi, lui dit-il, qui es cause de tant de malheurs. Ne devais-tu pas te rendre, sachant que tu ne pouvais être secouru ?» Puis, lui montrant la lame de son épée toute ruisselante, « Vois ce sang, ajoute-t-il, il n'est pas suédois, il est russe, et cette épée a sauvé les malheureux habitants de cette ville que ton entêtement avait sacrifiée. » Puis il s'écrie « Grâce au ciel, nous voici parvenus à vaincre les Suédois quand nous sommes deux contre un. Espérons qu'un jour, ils nous apprendront à les battre armes égales. » Alors il fait offrir la paix à Charles XII. « Quand nous serons à Moscou, répond celui-ci, nous verrons. »« Oh oh !» dit Pierre, « mon frère Charles XII veut faire l'Alexandre. Il ne trouvera pas en moi un Darius. » Mais Charles ne doute pas de la victoire. « Mon fouet, dit-il, suffira à chasser cette canaille moscovite, non seulement de Moscou, mais du monde entier. » Et il daigne enfin marcher de sa personne contre cette poussière que son souffle doit dissiper. À Grodno, un premier combat et une première victoire semblent lui donner raison. Mais un peu plus loin, au passage de la Bibitch, une lutte s'engage, sérieuse, acharnée, sanglante. Il est vrai que Cheremetev, Repnin et Menchikov sont là. Enfin, dès son entrée sur la terre de la vieille Russie, un peu au-delà de Mohilev, Galitzin repousse son avant-garde qui recule pour la première fois. Cette résistance inaccoutumée irrite cet autre téméraire qui doit un jour mourir comme le premier. Il fond sur l'armée, n'ayant avec lui que 6 régiments de cavalerie et 4000 hommes. Les moscovites se retirent. Le roi les poursuit dans des chemins creux. Il y est enveloppé par une nuée de kalmouks dont les lances pénètrent jusqu'à lui. Deux de ses aides de camp qui combattaient à ses côtés sont tués. Le cheval du roi, atteint de 5 blessures, plie les genoux et s'affaisse sous lui. Un écuyer, qui lui en présente un autre, est tué avec le cheval qu'il présente. Charles, entouré seulement de quelques officiers accourus autour de lui, continue de combattre à pied. Enfin, après avoir tué de sa main 12 ennemis, il en est réduit à 5 hommes. Il peut calculer le moment où, ces 5 hommes étant tombés les uns après les autres, il combattra seul et succombera sur une montagne de morts. Quand tout à coup le colonel Daldorf se fait jour à travers les kalmouks avec une compagnie de son régiment, dégage le roi qui remonte à cheval, tombe sur les kalmouks qui fuient à leur tour et qu'il poursuit pendant 2 lieues, tout harassé qu'il est. Son bonheur habituel ne l'a pas encore abandonné, car au milieu de la terrible lutte, il n'a pas reçu une seule blessure. Mais le mot du tsar est vrai. Charles commence à apprendre la guerre à ses ennemis. N'importe, la terreur est grande à Moscou. Charles est à Smolensk, et Smolensk n'est qu'à 100 lieues de la capitale. Mais là, un vertige prend le vainqueur. Au grand étonnement de toute l'armée, il quitte la route de Moscou, et au lieu de continuer à marcher vers le nord-est, il s'enfonce dans le sud, emportant 15 jours de vivres pour ses hommes et ordonnant au général Löwenhaupt de le rejoindre avec un corps d'armée de 15 000 Suédois, des vivres et des munitions. Il a autour de lui 20 000 hommes à peu près, avec 45 000, c'est-à-dire avec une armée double de celle d'Alexandre, il conquérera le monde. Les Suédois ne sont-ils pas les Macédoniens du XVIIIe siècle? Il prendra d'abord l'Ukraine, où l'attend Mazepa. Puis l'Ukraine prise, il reviendra prendre la Moscovie. Quel aveuglement l'a frappé! Suit-il le fantôme de Patkoul qu'il vient de faire écarteler au mépris de toute justice? Tant il y a qu'à la date de cette mort, la main du Seigneur se retire de lui. Encore une fois sa fortune jette une lueur, c'est sur les bords de la Desna, un des affluents du Dniepr. Le roi de Suède est arrivé là, exténué de faim et de fatigue. Un corps de 8 000 moscovites est sur la rive opposée, on se reposera en l'écrasant. Les bords sont tellement escarpés que les Suédois descendent avec des cordes. Puis on se jette à la nage et l'on aborde les 8 000 moscovites qui sont repoussés et qui cèdent la place aux Suédois. La Providence qui veut perdre Charles le fait vainqueur. S'il était vaincu, il reculerait et Poltava l'attend. Pierre, resté sous les murs de Moscou, le voit avec une joie mêlée d'étonnement se perdre dans les marais, s'enfoncer dans les steppes, s'égarer dans les bois. Il laissait ses hommes, ses chevaux, son artillerie, ses bagages, comptant sur ceux que doit lui amener Löwenhaupt. C'est Löwenhaupt qu'il faut attaquer et détruire d'abord, puis le tsar attaquera et détruira Charles après avoir attaqué et détruit Löwenhaupt. Le roi après le lieutenant. Löwenhaupt mène avec lui un convoi de 8 000 chariots, de l'argent levé en Lituanie, des canons, de la poudre, des provisions de bouche. Il a déjà passé le Bristen au-dessus de Mohilev. Il s'est avancé de 20 lieues sur le chemin de l'Ukraine quand, tout à coup, vers Tcherkov, à l'endroit où se joignent la Proïna et la Sossa pour se jeter dans le Dniepr, le tsar paraît à la tête de 40 000 hommes. Löwenhaupt et ses 16 000 Suédois, au lieu de se retrancher et d'attendre le tsar et ses 40 000 moscovites, marchent droit à eux. Ne sont-ils pas habitués à vaincre 1 contre 5? Le choc fut terrible. 1 500 moscovites furent couchés sur la terre sanglante pour ne plus se relever. Pierre voit la confusion se mettre dans les rangs. Il comprend que lui et la Russie sont perdus si Löwenhaupt joint Charles avec une armée victorieuse. Il court à l'arrière-garde, composée de Cosaques et de Kalmouks, les forme sur une ligne et leur crie « Tuez tout ce qui fuira et moi-même si j'étais assez lâche pour fuir !» Puis il retourne à l'avant-garde, en prend le commandement, rallie sa troupe et présente le combat à Löwenhaupt. Mais celui-ci a l'ordre de rejoindre le roi et non de combattre le tsar. Il a eu les honneurs de la journée, c'est tout ce qu'il lui faut. Il refuse le combat et se remet en route. C'est au tour de Pierre à se faire l'agresseur. Le lendemain, il rejoint les Suédois. Au moment où ceux-ci longent un marais, il les enveloppe et les attaque de tous côtés. Ils font face partout. Pendant 3 heures, on se bat. Ils perdent 2 000 hommes et les moscovites 5 000, mais ni d'un côté ni de l'autre on a reculé d'une semelle. La matinée reste indécise, c'est une victoire pour Pierre. À 4 heures, au moment où la fatigue a amené une halte, le tsar voit arriver le général Beko avec un renfort de 6 000 hommes. Il se met à la tête de ses troupes fraîches et se rue sur les Suédois. La bataille recommence et dure jusqu'à la nuit. Enfin, le nombre l'emporte. Les Suédois sont rompus, enfoncés, repoussés derrière leurs chariots. mais derrière leur chariot, ils se rallient et se retrouvent 9000 hommes à peu près. 7000 sont restés morts ou blessés mortellement dans les 3 combats qu'ils ont eu à soutenir. Les 9000 qui restent se pressent, se rallient, se remettent à leur rang et passent la nuit en ordre de bataille. Pierre, de son côté, passe la nuit sous les armes. Défense est faite aux officiers, sous peine d'être cassés, et aux soldats, sous peine de mort, de s'écarter et de piller. Pendant la nuit, Löwenhaupt s'est retiré sur une hauteur, ayant encloué les canons dont il n'a pas pu se faire suivre, et mis le feu à ses chariots. Pierre arriva à temps pour éteindre le feu. 4000 chariots tombèrent en son pouvoir. Puis il fit attaquer les Suédois pour la 5e fois, tout en leur offrant en même temps une capitulation honorable. Löwenhaupt accepta le combat et refusa la capitulation. On se battit pendant tout le jour. Le soir, Löwenhaupt passa la Sossa avec 4000 hommes qui lui restaient. Il en avait perdu 12000, avait soutenu 5 combats contre 40000 hommes, avait été repoussé, jamais entamé, écrasé, mais non battu. Cette résistance de ses ennemis faisait l'admiration et le désespoir de Pierre. Il avait perdu 10000 hommes dans ces 5 combats et avait senti l'ennemi glisser entre ses mains. Mais le résultat des 5 combats était pour lui 2 journées indécises et 3 victoires. Löwenhaupt rejoignit le roi de Suède avec 4000 hommes, mais il n'amenait ni munitions ni vivres à une armée qu'il trouvait sans vivres et sans munitions. Plus de communication avec la Pologne, partout un pays hostile et un ennemi acharné. Enfin, l'hiver, ce terrible hiver de 1709, qui n'eut pour pendant que celui de 1812. Charles perdit 2000 hommes dans ses steppes et en sortit avec des cavaliers sans chevaux, des fantassins sans souliers. Une partie de l'artillerie fut laissée dans les marais ou jetée dans les rivières. On n'avait plus de chevaux pour la traîner. On sait l'histoire de cet officier qui se plaignait et dont le roi entendit la plainte. « Vous ennuiriez-vous, par hasard, d'être loin de votre femme ?» lui dit le roi. « Si vous êtes un vrai soldat, je vous mènerai à telle distance de la Suède que vous aurez grand-peine à en recevoir des nouvelles tous les 3 ans. » On sait l'anecdote de ce soldat qui, n'ayant pour passer sa journée qu'un morceau de pain noir fait d'orge et d'avoine, montre ce morceau de pain à Charles. Celui-ci le prend, le regarde, le mange jusqu'à la dernière miette. Puis au soldat ébahi et qui doit jeûner jusqu'au lendemain. « Il n'est pas bon, dit-il, mais il peut se manger. » Et il continua son chemin. En somme, 24000 hommes lui restent, exténués, mourant de faim. Mais ce sont des Suédois. Ils retrouveront leur force au bruit du canon. Il est vrai que les maladies se mettent dans l'armée, que dès le 1er février, on se remet à combattre et qu'au mois d'avril, il ne reste plus au roi que 18000 hommes. Mais on s'était rapproché de Poltava. Charles engage quelques milliers de Valaques que lui vante un conne tatar, et dans ses 18000 Suédois et ses 12000 Valaques, il va assiéger Poltava. Poltava contient des magasins de toute espèce, des armes, des munitions, des vivres. Il faut prendre Poltava. Il fallait d'autant plus prendre Poltava que l'hiver, qui avait été un ennemi pour Charles XII, avait été un allié pour Pierre. Celui-ci s'avançait à la tête d'une armée de 70000 hommes. Charles pressait le siège en personne. Pendant une fusillade, une de ces balles providentielles, un de ces misérables lingots de plomb qui décident non seulement de la vie des hommes, mais encore de la destinée des empires, suivit la ligne que lui traçait la main de Dieu et alla fracasser l'os du talon de Charles XII. Celui-ci ne sourcilla point. Il était de l'école de ce philosophe grec qui disait « Douleur, tu n'es pas un mal. Il resta encore 6 heures à cheval, sans pousser une plainte, sans qu'aucun de ceux qui l'entouraient s'aperçût qu'il était blessé. Enfin, un domestique vit le sang couler de sa botte. Il appela du secours. Il était temps, le roi allait tomber de cheval. On l'en descendit, on lui coupa sa botte. On décida qu'il fallait lui couper la jambe. Couper la jambe à un roi comme Charles XII, autant valait le décapiter. Un médecin eut la hardiesse de se déclarer contre l'amputation et de prendre la responsabilité. Ses confrères lui abandonnèrent le malade. « Qu'allez-vous faire ?» demanda Charles XII, resté seul avec lui. « De profondes incisions, sire, pour tirer de la blessure les os qui pourraient entraver la cicatrisation. » « Faites !» dit Charles XII en allongeant la jambe. Le chirurgien appela. « Que voulez-vous ? » demanda le roi. « 2 hommes, sire. Pourquoi faire ? Pour tenir la jambe de votre majesté. Inutile, je la tiendrai moi-même. » Et Charles XII tint sa jambe, regardant faire l'opération comme si elle avait lieu sur un autre. Le chirurgien posa l'appareil et le roi, à son tour, appela. C'était pour donner l'ordre d'un assaut pour le lendemain. Mais au moment où l'aide-de-camp sortait afin de transmettre cet ordre, un autre entra annonçant l'arrivée du tsar avec 70 000 hommes. « Bien, dit Charles XII, sans marquer la moindre émotion à cette nouvelle, nous battrons le tsar, et après l'avoir battu, nous prendrons Poltava. » Et il donna ses instructions pour la bataille. Puis, fatigué de l'assaut autant que de l'opération, s'endormit et ne s'éveilla que le lendemain, à la pointe du jour. Ce lendemain, c'était le 8 juillet 1709. Le soleil qui se levait allait éclairer une de ces batailles comme celle d'Arbel, comme celle de Marathon, comme celle de Zama, comme celle d'Axium, comme celle de Bouvines, comme celle de Waterloo, qui décide du destin d'un empire. D'un côté Charles XII, c'est-à-dire 9 années de victoire, de l'autre Pierre Ier, c'est-à-dire 12 ans de peine, de soins, de lutte, le premier dispensateur des États ayant fait et défait des rois, le second s'étant fait empereur à grand-peine et commençant à civiliser son empire, l'un aimant le danger pour le danger avec le courage animal du lion faisant la guerre pour le plaisir de la faire, le second affrontant le danger quand il le faut et ne faisant la guerre que dans l'intérêt de son peuple. L'un libéral sans discernement parce qu'il est né de la main ouverte, l'autre économe et ne donnant jamais que dans un but arrêté d'avance. L'un sobre et chaste par tempérament, l'autre aimant le vin et les femmes avec excès, l'un ayant conquis le titre d'invincible qu'une défaite peut lui enlever. L'autre étant en train de conquérir le titre de grand que rien ne peut lui faire perdre. L'un risquant le passé, l'autre l'avenir. Si Charles XII est tué, ce n'est après tout qu'un homme de moins. La Suède reste ce qu'était, ce que doit être la Suède. Si Pierre est tué, c'est non seulement un homme qui tombe, mais encore la civilisation qui recule, un empire qui s'écroule. La main de Dieu se fera visible et le héros de la civilisation sera le champion du Seigneur. Passez à Poltava, et à 6 verstes de la ville vous trouverez un monticule haut de 28 pieds. C'est le tumulus qui recouvre l'armée suédoise, c'est le tombeau où est ensevelie la gloire de Charles XII. Sur ce champ de bataille, à la place même où s'élève ce tombeau, Pierre, tout poudreux et tout sanglant, mais l'auréole de la victoire au front, prit la parole et s'adressant à son armée victorieuse, « Je vous salue, soldats, dit-il, je vous salue, enfants les plus chéris de mon cœur, vous que j'ai formés à la sueur de mon front, vous les entrailles de la patrie, et qui lui est aussi indispensable que les lames au corps qui l'animent. » Puis laissant Charles XII à sa colère insensée de Bender, il va achever avec la Pologne la Prusse et le Danemark la victoire de Poltava. Stanislas descend du trône et cède la Pologne au roi de Saxe. Pierre est trop fort pour ne pas comprendre la faiblesse d'Auguste. Puis il redevient général et bombardier devant Riga, administrateur et législateur à Moscou, ingénieur et constructeur à Saint-Pétersbourg. C'est alors qu'il fonde Kronstadt, fixe son armée à 33 régiments d'infanterie, à 24 régiments de cavalerie, à 58 000 hommes de garnison, puis, après avoir fait d'un marchand de petits pâtés un général en chef, d'un état informe et grossier un empire puissant et victorieux, il fait de Catherine, la paysanne livonienne, la servante du pasteur Gluck, une tsarine qui portera après lui sa couronne qu'elle va sauver. La tsarine Eudoxie Lapoukine est déjà depuis 5 ans dans un monastère. Cependant, ce n'est que 12 ans plus tard que Catherine sera officiellement reconnue et couronnée. C'est qu'il vient d'arriver un événement étrange. Parmi les prisonniers faits à Poltava, et ce Trabant qui a été marié 2 jours à Catherine, transféré à Moscou avec les 14 000 Suédois qui ont capitulé, il entre à la suite de Pierre comme captif dans cette capitale du vieil empire russe que va détrôner Saint-Pétersbourg, capitale du nouveau. Là, il a appris ce qui s'est passé entre Catherine et le tsar. Au lieu de s'effrayer de l'événement, il en a conçu de l'espoir et il a fait confidence de ce qu'il est au commissaire des prisonniers. Celui-ci adressa en toute hâte son rapport au tsar. Pierre écrivit au bas « Cet homme est un fou auquel il ne faut faire aucun mal, le traiter comme les autres prisonniers. » Et comme les autres prisonniers, il a été envoyé en Sibérie. La Sibérie, c'est la nuit dont on ne sort jamais pour revoir le jour. Le Trabant mourut dans les ténèbres de l'exil vers la fin de l'année 1721. Ce ne fut que bien sûr de sa mort que Pierre Ier fit reconnaître publiquement Catherine.